20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il reprend le rôle de Simon Boccanegra, l'un des plus forts et des plus exigeants de Verdi, en ce moment à l'Opéra Bastille. Elle fait quant à elle ses débuts à ses côtés dans le rôle de sa fille. Ludovic Tézier et Nicole Carr se confieront ce soir à notre micro sur cet opéra, sur cette production mise en scène par Calixto Bieito, à découvrir ou redécouvrir en ce moment jusqu'au 3 avril à Bastille. Et puis comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune artiste, cette semaine la chef d'orchestre Stéphanie Childress. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Pourrait-on percer les secrets du violon préféré de Paganini? Une équipe de scientifiques, en tout cas, vient d'étudier pendant 2 jours Il Canone, un violon du luthier Guarneri, conservé au musée de Gênes. L'instrument a même été passé au rayon X, et cela dans le but d'améliorer sa conservation, mais aussi de comprendre ce qui lui confère une telle qualité sonore. Alors, les résultats seront publiés dans quelques mois. Une expérience que vous raconte Philippe Gault dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est ce week-end que débute la nouvelle édition du Festival de l'Opéra de Lyon, à savoir l'un des moments forts de la saison lyrique lyonnaise. La thématique cette année, rebattre les cartes. Et pour l'illustrer, 3 héroïnes, la fille du Far West de Puccini, la dame de pique de Tchaïkovski et une femme de notre époque en proie aux violences invisibles quotidiennes dans l'opéra Otage de Sébastien Rivas qui sera donné en création mondiale. 3 femmes qui font mentir les clichés de leur temps et donc rebattent les cartes. Avec pour les incarnés Chiara Isoton, Elena Gouzeva et Nicolas Belair-Carbone sous la direction de Daniele Rustioni et des routes chez Reiner. C'est donc dès vendredi et jusqu'au 3 avril à l'Opéra de Lyon et au Théâtre de la Croix-Rousse. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique. La pianiste Yeol Eumson, dont on avait tant aimé sur Radio Classique l'intégrale des sonates de Mozart, sortie l'année dernière chez Naïve, fait son retour en ce moment au disque en compagnie du violoniste Svetlin Roussev dans un programme placé sous le signe de l'amour, un album intitulé Love Music, justement, s'ouvrant avec une transcription du duo d'amour de Tristan et Isolde Wagner et se refermant avec l'un de ses Wesendonck leaders. Un voyage amoureux ponctué également de pages de Korngold, Kreisler et Richard Strauss, un programme aussi ensorcelant que tendre et délicieusement nostalgique. Thank you. Golden Rosemarine, une pièce de Fritz Kreisler qui figure au programme de ce bel album Love Music de la pianiste Yeol Eumson et du violoniste Svetlin Roussev, un album qui vient de paraître chez Naïve.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est à l'Opéra Bastille que je suis allée rencontrer la semaine dernière Ludovic Thésier et Nicole Carr. Ils sortaient à peine de scène de la répétition de Simon Boccanegra dans cette production mise en scène par Calixto Biaito, créée en 2018 avec déjà Ludovic Thésier dans le rôle titre. Une production à redécouvrir en ce moment et jusqu'au 3 avril. Simon Boccanegra, ancien corsaire devenu doge de Gênes, inconsolable depuis la mort de sa femme et l'enlèvement de sa fille, une fille qu'il retrouve justement, elle est incarnée ici par Nicole Carr. Un personnage d'une grande richesse psychologique, un humaniste qui tente d'imposer la paix auprès de son peuple, un homme profondément attachant donc, que Ludovic Thésier avait très envie de retrouver, comme il me l'a confié.
Ah oui, est-ce que je retrouve Simon Boccanegra ou est-ce que je retrouve Ludovic Thésier ? Ça, c'est la grande question. Je dis ça un peu en forme de boutade, évidemment, mais parce que c'est comme tous les rôles de papa, de père, moi, c'est des choses qui me, y compris à la ville, qui me préoccupent et touchent particulièrement. Donc oui, ce personnage est, qui est quand même assez extraordinaire dans son évolution jusqu'à cette fin quasiment angélique. Non pas que je sois un ange moi-même d'ailleurs, mais bon, il y a quand même des éléments de recherche. Je veux dire, c'est des sujets à creuser de manière infinie. Un peu d'ailleurs comme cette musique qui semble être une musique infinie, quoi. Ça n'arrête pas, c'est fluide, c'est très très fascinant, très méditatif. Donc oui, retrouver ça, c'est plus qu'un plaisir, c'est une vraie émotion.
Et pour vous, Nicole Carr, c'est une prise de rôle ?
Absolument, c'est une prise de rôle pour moi. Et quel plaisir et quel bonheur d'être avec cette cast, dans cette mise en scène et dans cette maison d'opéra aussi. Moi, je me régale en ce moment sur scène, en train de chanter et aussi en train d'écouter les autres collègues. Mais c'est ça, je trouve la mise en scène de Calixto Beto très intéressante et je peux bien voir le travail qu'ils ont fait pour la création. Et pour moi, c'est du bonheur. J'ai de la chance d'être dans la reprise.
Alors, Simon Boccanegra, ce n'est pas l'opéra de Verdi que l'on entend le plus souvent, ce n'est pas le plus connu. Et pourtant, c'est une œuvre absolument fascinante. C'est une œuvre dans laquelle on a l'impression que Verdi a mis beaucoup de lui-même.
Ah, il a mis énormément de lui-même. De mémoire, je crois que Verdi allait très, très souvent, si ce n'est tous les hivers, passer l'hiver au soleil sur la baie de Genova. Donc déjà, il y a de lui-même dans le sens où il est observateur de la mer. Verdi, du reste, est un homme de terre, hein, c'est un contadino, un paysan. Et donc, comme tous les hommes de terre, ils ont une grande fascination en fait pour la mer. On le perçoit dans la musique. Et puis, il y a son histoire évidemment personnelle, toujours ce rapport père-enfant qui est très compliqué chez lui. Et pour cause, je vous renvoie à sa biographie pour ceux que ça intéresse. Enfin, il a vécu des drames par rapport à ses enfants, à sa compagne aussi, sa femme. Et je crois qu'on le perçoit de manière assez subtile, mais très très présente tout au long de l'œuvre. En fait, c'est une œuvre qui est très personnelle. Et je crois, de ce qui ressort de ses courriers, une de ses œuvres, si ce n'est l'œuvre préférée, une de ses œuvres favorites, oui.
Alors c'est vous, Nicole Carr, l'enfant du doge de Ludovic Thésier, un enfant qui avait été enlevé et qu'il découvre tardivement.
Oui, elle a vécu une vie assez étrange. Elle a perdu sa maman très jeune. Elle n'a pas vraiment les souvenirs d'elle. Et aussi, elle a perdu son papa. Et c'est son grand-papa. Mais elle ne sait pas que c'est lui, mais c'est son grand-papa qui a élevé Amélia. Donc, pour elle, la drame reste vraiment à l'intérieur tout le temps. Et elle est toujours là. Elle est très touchée par l'histoire de ses parents qu'elle ne connaît pas. Donc, le moment où lui, il dit... Vous êtes ma fille, c'est plus que choquant. Elle ne peut pas imaginer que son père est encore en vie et qu'un jour elle va le voir. C'est un moment extraordinaire. Et dans la musique et dans le libretto aussi, c'est beau. Oui. Et d'être à côté de Ludovic en train de chanter ça, c'est quelque chose. Je peux fortement recommander ça.
Alors c'est vrai que Ludovic Thésier, vous connaissez bien les rapports paternels chez Verdi, qu'on pense à Rigoletto, qu'on pense à Germont aussi dans la Traviata. Comment décririez-vous les rapports de Simon Boccanegra avec Maria ou Amélia, la fille qu'il retrouve ? Qu'est-ce que cela lui apporte d'ailleurs ces retrouvailles ?
Ce qui est quand même assez extraordinaire, alors les retrouvailles, on en parlait avec Calixto qui est très fin sur cette histoire de retrouvailles, parce qu'il y a quand même une quasi-impossibilité physique à ses retrouvailles. L'une n'a jamais connu son père ou sa mère, et l'autre l'a connu au berceau encore, et tout à coup, ben, il a une jeune femme magnifique en face. Elle a un doge qui, a priori, n'est pas très amical au départ. Enfin, vous voyez, la relation est un peu compliquée, donc il y a une impossibilité à s'embrasser, quoi qu'ils en chantent ou disent, puisque tous les deux chantent « embrassons-nous, embrassons-nous ». En fait, on s'embrasse quasiment pas, parce qu'en fait, c'est trop émotionnel, c'est trop, trop compliqué. Je trouve qu'il y a... Il y a une chose, en plus, il y a une différence de niveau. Encore une fois, cet enfant qui a été enlevé, perdu dès le départ, n'a aucune image, si ce n'est imaginaire, pour le coup, des parents, alors que le père, lui, n'a jamais quitté vraiment cet enfant, puisqu'il en a quand même eu une image. Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Découvrir l'image de son père alors qu'on en avait peut-être une autre, ou découvrir l'image de sa fille, simplement parce qu'elle est grandie, et c'est quelques dizaines d'années après. Enfin, c'est très, très compliqué. Le rapport entre les deux est sincère, je crois, parce qu'il y a eu un manque extraordinaire. Mais c'est très difficile à exprimer. On le sent, en fait, tout le long de l'œuvre. Je crois que même à la fin où ton personnage, finalement, vous découvre l'amour avec Gabriel, et vous êtes tous les deux en couple, déjà loin du père, quelque part, comme tous les enfants, lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils s'engagent sur leur propre voie. Mmh. Et ce père à peine retrouvé disparaît, quoi. C'est très, très curieux. C'est une rencontre in extremis, un peu.
Oui, absolument. Et je trouve très intéressante l'idée d'avoir les souvenirs tout long, pendant le spectacle aussi. On voit la mère de Amelia tout long, hein, sur les images, elle est là sur scène aussi, c'est très fort, les souvenirs qui reviennent et reviennent et reviennent pendant la soirée, c'est très intéressant.
Ludovic Tézier, capté en 2018 lors de la création de cette production de Simon Boccanegra de Verdi, dans la mise en scène de Calixto Biaito, reprise en ce moment à l'Opéra Bastille. Une production qui met en avant la psyché des personnages, nous fait véritablement rentrer dans leur âme, dans leur esprit, sachant que Simon Boccanegra est un homme en souffrance, en lutte entre ses drames personnels et ses responsabilités politiques, comme nous le raconte Ludovic Tézier avec Nicole Carr, qui incarne donc sa fille.
C'est une carrière. Simon Boccanegra, c'est, j'allais dire, surcouf. C'est le corsaire fameux avec du panache et qui finalement, au moment où où il y a cette rencontre au début très complotiste, très secrète avec Paolo, et où il accepte finalement de devenir le doge, à cause des catastrophes qu'il a pu vivre dans sa vie, et probablement ou en train de boire, ou de déprimer, ou d'avoir une grosse dépression. Et cette mission-là, c'est un petit peu une planche de salut pour lui. Du reste, Paolo, qui est extrêmement intelligent et manipulateur, le perçoit et lui offre finalement, alors que Simon voit le cadavre de Marie, donc de la maman, et qu'il s'exclame une tombe, Paolo lui répond un trône. Donc il lui propose une voie, une espèce de dérivatif, tout en sachant que Simon est irrémédiablement affaibli. En tout cas, il le pense, et donc il pourra éventuellement mettre sa main dessus et le manipuler. Or, ça ne se passe pas comme ça, parce que le caractère de Simon, c'est quand même un personnage assez... En fait, qui ne craint pas la mort, il ne la craint plus, puisqu'il a tout perdu. Et donc, ce sont des personnages, en général, qui sont assez forts, puisqu'ils n'ont rien à perdre. Et effectivement, Simon cherche à expier ses fautes, un petit peu. Dès le premier jet de la musique, on sent que vis-à-vis de Fiesco, il y a une demande d'amour, une demande de pardon. Et tout le long de sa vie, jusqu'à et au-delà de la rencontre avec sa fille... Il y a quand même cette volonté de rendre ce qu'on a pu lui donner et d'essayer de faire au mieux pour essayer de faire pardonner ce qu'il a pu faire, par ailleurs. Hein. Donc c'est un personnage qui a un long cheminement et qui finit quasiment christique dans cette mise en scène. Quel parcours, quand même. Hein.
Non, c'est ça que je trouve la chose la plus intéressante de voir, pour moi, parce que vraiment, en aidant... On est un peu dans la tête de Simone Boccanegra aussi. Donc, moi, oui, je suis le personnage, je joue Amelia, mais j'ai l'impression aussi que mon Amelia, c'est un peu une création de lui aussi. Donc, il y a les autres dimensions qui arrivent pour tous les personnages. Donc, même si Paolo n'est pas nécessairement comme ça, il est comme ça parce que Simone, il le voit comme ça. C'est un niveau différent aussi.
Alors, c'est un opéra très puissant, très chargé sur le plan émotionnel, très dense. C'est un rôle, Ludovic Désir, le rôle de Simon Boccanegra, très fort, très lourd aussi. Vous chantez quasiment tout le temps, pendant 3 heures.
Oui, j'avais répondu à un collègue journaliste, je crois en Italie, qui me demandait finalement, ça ne vous ennuie pas qu'il n'y ait pas d'air, en fait, dans le rôle de Simon. J'avais répondu en forme de pirouette, mais il y a un air qui dure, quoi, 2 heures et demie, 3 heures, en fait. Il n'arrête jamais. Donc, c'est quand même très, très physique. En plus, dans la mise en scène à Callisto, vu qu'on est effectivement un petit peu dans la tête de, et donc, ou dans l'âme, ou ce qu'on voudra de Simone, et on est en permanence en scène, puisque c'est un petit peu à travers son regard ou sa psyché qu'on voit ce spectacle. Donc physiquement, c'est très très intense. C'est un petit peu le pendant de l'Hamlet de l'année dernière où je ne quittais quasiment pas la scène, au moins pendant 2 heures et demie. Bon, on va dire que ça aura été une bonne séance d'essai pour le Simon de Callisto, puisqu'on a en plus de ça rajouté une paire d'escaliers qui m'emmène au 2e étage sur le bateau. Et voilà, c'est très physique tout ça. Mais enfin, bon, comme on disait en off tout à l'heure, c'est quand même un rôle et une œuvre plus généralement qui demande beaucoup d'énergie, mais qui en rend aussi énormément. Donc c'est une bonne fatigue, comme disaient les anciens.
Thank you.
Un extrait de la répétition générale de Simon Boccanegra de Verdi à l'Opéra Bastille, avec ici Nicole Carr et Ludovic Tézier, qui sont justement à notre micro ce soir sur Radio Classique. Ils nous parlent maintenant de la ligne vocale de Verdi dans cet opéra et de leur complicité dans cette production, leur première en commun.
C'est intéressant parce qu'on pense, évidemment, Amélia est jeune, c'est une jeune fille, mais on pense toujours, je pense, plus léger pour Amélia. Mais honnêtement, la musique, c'est pas écrit léger. Elle est vraiment, c'est un full lyrique, c'est vraiment, c'est assez chargé au niveau d'émotion aussi. Donc, pour moi, c'est un bon élan vers les autres Verdi, le répertoire un peu plus, moins léger, un peu plus lourd. Et, mais mon Dieu, que c'est bien écrit. Chaque moment, c'est comme Ludovic a dit, chaque moment nous donne l'énergie pour le prochain moment, pour le prochain et pour le prochain. Et, pour moi, Amélia est comme ça. C'est du bonheur.
Il y a des passages avec les chœurs d'une puissance, d'une force.
Oui, le chœur, mais comme ils chantent bien. Ils sont extraordinaires ici. Et vraiment, ils sont dans l'émotion aussi. On voit ça dans chaque visage. Les moments où on chante, et ça, c'est verdien aussi. Les finales, toujours avec les grands chœurs, tout le monde qui chante. C'est un cadeau.
C'est beaucoup de frissons. Alors, Nicole Carr et Ludovic Tézier, vous êtes des habitués de cette maison, de l'Opéra National de Paris. Est-ce que vous aviez déjà partagé une production ensemble, ou est-ce la première fois?
Non, je peux me permettre de dire non, jamais, c'est la première fois. Comme quoi, il y a des bonheurs qui arrivent à tout âge, me concernant en tout cas. Mais non, c'est une très belle rencontre. J'ai eu la chance de partager un Rigoletto avec Étienne, ton mari à Madrid. Et ça a été une super rencontre, en fait, et artistique et humaine. Et il me dit, mais tu vas voir, ma femme, non, c'est formidable et tout. Donc, oui, je confirme en direct, si tu m'écoutes, Étienne, tu as une épouse formidable et une chanteuse très, très, très remarquable et sensible. Elle donne beaucoup, en fait. Ce que tu disais, c'est très juste. En fait, le rôle est construit de manière qu'il t'apporte toujours quelque chose pour la scène suivante, mais le partenaire là-dedans est très important. Parce qu'on est vraiment sur une vertèbre émotionnelle très sensible, quoi. Il faut être là-dessus sans arrêt. C'est un tout petit piédestal. Il faut pas en bouger, sinon on tombe très rapidement ou dans le grand guignol, le pompier ou dans le rien. Et là, quand il y a un partenaire qui envoie, non pas des coups droits à frapper, mais des slices bien ajustés, là où il faut, on est bien. Je veux dire, la balle revient avec énergie. Et sur la bonne énergie. C'est pas évident de construire, comme tu disais, le duo avec Simon est extrêmement sensible, extrêmement délicat, parce que c'est une retrouvaille qui est en fait une impossible retrouvaille. Il faut arriver à le donner, mais pour arriver à le donner, il faut arriver à percevoir. Donc là, il faut avoir des partenaires en scène qui sont un petit peu sur une sensibilité égale. C'est largement le cas.
Et évidemment, travailler avec Ludovic, qui est le plus haut niveau de sa carrière et de tous les chanteurs d'opéra. C'est comme, il est une idole pour tous les barytons et pour tous les chanteurs. Donc, de travailler avec lui et vraiment de voir comment il est sensible avec les personnages, avec son chant, la façon il chante. On a l'impression qu'il a comme trois poumons quelque part. On sait pas, il respire jamais. Mais c'est plus qu'impressionnant. C'est touchant. Et oui, pour moi, c'est un gros plaisir. C'est quelque chose que j'ai attendu depuis longtemps.
Voilà, puis avec la présence également de votre mari, Étienne Dupuy.
Oui.
C'est un opéra qui met en avant les barytons. Hein. Pour tous ceux qui aiment les voix de barytons, un vrai régal, un vrai bonheur. Merci beaucoup, Nicole Carr et Ludovic Tézier. On vous dit toi toi pour cette production. Merci infiniment.
Mais merci.
Merci à vous.
Voilà Simon Boccanegra, De Verdi avec Ludovic Tézier, Nicole Carr, mais aussi Charles Castronuovo ou encore Étienne Dupuis avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra National de Paris, placé sous la direction de Thomas Engelbrock. C'est en ce moment et jusqu'au 3 avril à l'Opéra Bastille.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, une jeune chef qui depuis 4 ans a fait bien du chemin.
Oui, souvenez-vous, c'était en 2020, la première édition de La Maestra, ce concours de direction d'orchestre réservé exclusivement aux femmes et dont la troisième édition démarre justement ce jeudi. Eh bien au milieu des 12 finalistes de cette édition inaugurale, on découvrait une jeune franco-britannique d'à peine 21 ans dont la maturité nous avait proprement bluffé, a fortiori lors du travail de répétition avec le Paris Mozart Orchestra qui est alloué aux candidates pour toute la durée du concours. Stéphanie Childress, du haut de son jeune âge, y faisait déjà montre d'un aplomb, d'une précision confondant, sachant très exactement où elle voulait emmener l'orchestre, quelle couleur demander à tel ou tel pupitre, une précision chirurgicale, doublée d'une énergie et d'une vitalité communicative. À l'époque, certains, dont je fus, chère Laure, avaient regretté qu'elle ne reparte d'ailleurs qu'avec le deuxième prix. Mais il est vrai qu'à 21 ans, eh bien, elle avait encore le temps de prouver bien des choses.
Et le moins qu'on puisse dire, Thierry, est qu'en la matière, elle n'a pas perdu de temps. Hein.
En effet, tout de suite après le concours, dont cette première édition avait lieu en septembre, souvenez-vous, c'était au sortir des premiers confinements, un autre monde, dirions-nous, eh bien elle était invitée à remplacer au pied levé Susanna Melki pour diriger le London Symphony Orchestra lors d'un concert certes sans public mais retransmis dans le monde entier, tout un symbole pour cette jeune femme née à Londres à peine 2 décennies plus tôt, mais aussi une belle porte d'entrée dans le monde de la direction pour celle que ses compatriotes connaissaient surtout jusque-là en qualité de violoniste, car elle avait à ce titre été 2 fois finaliste du concours de jeunes musiciens de l'année organisé par la BBC.
Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Non, cher Laure, tant s'en faut, dans la foulée de ses débuts au pupitre du LSO, eh bien c'est un Français qui la contacte, un certain Stéphane Deneuve, en poste à l'orchestre de Saint-Louis dans le Missouri. Celui-ci lui propose de devenir son assistante pour 2 ans. Il l'avait découverte, eh bien grâce aux retransmissions du concours La Maestra, justement. Née d'une mère française et d'un père américain, Stéphanie Childress n'en croit pas ses oreilles. Cette première expérience dans le Missouri lance sa carrière aux États-Unis et celle-ci ne semble pas prête de s'arrêter puisqu'elle y dirigera dans quelques semaines seulement l'opéra Breaking the Waves de Missy Mazzoli à l'opéra de Détroit où elle fera ses débuts avec ce spectacle.
Il faut dire que l'opéra a toujours exercé sur elle un certain attrait.
Plus que ça, alors, c'est grâce à l'opéra, dit-elle, qu'elle a voulu devenir chef d'orchestre. Si la violoniste créa elle-même son premier orchestre sur les bancs de l'université, à 16 ans, exactement comme un certain Simon Rattle, son mentor, c'est en fréquentant l'opéra qu'elle a pris conscience de sa volonté d'être au cœur de la machine, comme elle dit, et de ce merveilleux travail collectif que constitue l'orchestre. D'ailleurs, si elle vient d'être nommée pour 2 saisons première chef invitée de l'Orchestre National de Catalogne à Barcelone, occasion, dit-elle, de s'établir en tant que chef capable de devenir directrice musicale, elle l'avoue, elle ne compte pas renoncer au lyrique entre ses récentes apparitions au festival de Glyndebourne ou encore à l'opéra de Hambourg. L'opéra occupe déjà presque 50% de son activité. Gageons qu'on pourra la voir prochainement dans l'Hexagone comme chef invité, que ce soit au pupitre de l'un de nos orchestres parisiens ou bien dans la fosse de l'une de nos maisons d'opéra, dans un monde en pleine mutation où les femmes chefs d'orchestre gagnent enfin en visibilité. Ce ne serait que justice. Rappelons qu'elle n'était que 4 il y a 10 ans à pouvoir prétendre faire partie du top 100 des chefs d'orchestre les plus actifs dans le monde. Elles sont 14 en 2023.
Donc il y a de l'espoir.
Exactement.
Un extrait de En Saga de Jean Sibelius par le London Symphony Orchestra sous la direction de Stéphanie Childress. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de cette jeune chef franco-britannique, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, là.
Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Leonardo Garcia Alarcón qui vient d'inaugurer une toute nouvelle salle à Genève, la Cité Bleue, où son ensemble, la Capella Mediterranea, sera d'ailleurs en résidence. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.